France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le mardi 16 mars. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, tous les yeux sont tournés vers l'Agence européenne du médicament qui doit rendre jeudi son avis sur le vaccin AstraZeneca. Hier, dans le sillage de l'Allemagne, la France a décidé de suspendre l'utilisation du vaccin anglo-suédois en cause plusieurs cas de thrombose. On en parlera à 8h20 avec le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale anti-Covid, Monsieur Vaccin, le professeur Alain Fischer. Vos questions dès maintenant. Le standard vous attend 01 45 24 7000. Et les autres titres, Agnès?
C'est le virus qui est le maître du temps. Emmanuel Macron annonce de nouvelles décisions dans les jours qui viennent. Le télétravail a changé nos vies depuis un an, mais comment s'intégrer dans une nouvelle équipe quand on n'a jamais vu ses collègues? En Birmanie, les services de secours tentent de s'organiser alors que le bilan s'alourdit, au moins 138 morts en un mois et demi. Témoignage sur les méthodes utilisées par les frères Guérini qui comparaissent devant le tribunal correctionnel de Marseille. Et puis, que faisiez-vous il y a un an? Souvenez-vous, c'était le temps du premier confinement.
Et de la vie d'avant, et on prenait des verres, exactement. Invité de France Inter ce matin à 7h50, Léa.
Oui, il ne parle quasiment plus dans les médias depuis qu'il a pris sa retraite, mais fait une exception lorsqu'il faut défendre une cause qui lui tient à cœur. C'est ce qu'il fait ce matin en venant défendre le droit à mourir dans la dignité. L'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë, sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure, Léa.
France Inter. La liste s'est allongée en quelques heures. Hier, 7 États européens, dont l'Allemagne puis la France, ont annoncé la suspension de l'utilisation du vaccin AstraZeneca, emboîtant ainsi le pas aux Pays-Bas et aux pays nordiques. Les pays qui maintiennent leur confiance au vaccin anglo-suédois se comptent ce matin sur les doigts d'une main, le Royaume-Uni, la Pologne et l'Australie. En cause, les problèmes de coagulation et la formation de caillots chez plusieurs personnes récemment vaccinées. Existe-t-il un lien réel? L'Agence européenne du médicament doit analyser les dossiers aujourd'hui avant de rendre un avis jeudi. Daniel Messager.
Lors de la phase 3 des essais cliniques d'AstraZeneca portant sur 40 000 personnes, aucun effet indésirable de type thrombose n'avait été signalé. Les chiffres officiels du Royaume-Uni, pays le plus vacciné avec AstraZeneca, rapportent 35 cas de thrombose sur près de 9 700 000 personnes ayant reçu une première dose. À titre de comparaison, il y en avait eu 17 pour plus de 10 millions de vaccinés avec Pfizer-BioNTech. Ce que va devoir chercher l'Agence européenne du médicament avec ce nouvel examen des données, c'est trouve-t-on une imputabilité, c'est-à-dire un lien direct. Les dossiers des personnes victimes de ces thromboses vont être épluchés. Avait-elle un facteur de risque non décelé? On pourrait alors exclure de cette vaccination ces personnes avec facteur de risque, mais continuer de la recommander pour les autres. Ce n'est qu'une hypothèse. Si aucun lien direct n'est démontré, le doute devrait être levé rapidement. Chaque jour qui passe sans vaccination entraîne des contaminations, des formes sévères et des décès. 401 patients sont entrés en réanimation ces dernières 24 heures. 333 sont morts des suites de la maladie.
L'annonce hier de la suspension du vaccin AstraZeneca en France a pris tout le monde de court. Les pharmacies qui venaient juste de commencer à vacciner ont dû décommander tous les rendez-vous. Une précipitation que regrette Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français. Cette suspension sème le trouble dans l'esprit des candidats à la vaccination.
À moins qu'il y ait des éléments tout à fait récents, nouveaux, que les médecins ne connaissent pas à l'heure où je parle, c'est une décision strictement politique qui est une catastrophe, parce que on a un courant anti-vaccination dans le pays. On a beaucoup d'interrogations de la part de nos patients lorsqu'on leur propose la vaccination, en particulier la vaccination AstraZeneca. Quelque part, même si, imaginons, demain ou après-demain, l'Agence européenne du médicament dit « Non, finalement, c'est une fausse alerte, il n'y a pas de problème. » Je suis sûr qu'un certain nombre de Français vont garder un doute. Et ça va faire les gorges chaudes des gens qui sont opposés à la vaccination. Pour nous, c'est franchement pas une bonne idée. C'est le seul vaccin qu'on avait en ville. C'est un coup d'arrêt brutal, massif. C'est des rendez-vous annulés. C'est des patients qui ne vont pas venir à nos rendez-vous. C'est vraiment une décision qu'on a du mal à accepter et à comprendre.
Un propos recueillis par Véronique Julia. Alors, est-ce qu'on ne prend pas un risque plus grand en arrêtant de vacciner? Question posée sur franceinter.fr. Le chef de l'État, lors de son intervention hier après-midi, a également évoqué des décisions à venir. Il faut dire que la situation continue de se dégrader, notamment en Île-de-France, avec un taux d'incidence supérieur à 400 pour 100 000 habitants. Un nouveau variant a également été détecté en Bretagne, pas particulièrement dangereux, mais pour l'instant sous surveillance. Nous verrons cela dans le journal de 8 heures. Et dans ce contexte, à la veille d'un nouveau conseil de défense sanitaire, les mots prononcés hier par le chef de l'État prennent tout leur sens.
Nous aurons à prendre dans les jours qui viennent, sans doute, de nouvelles décisions. Nous aurons encore à en prendre. J'ai demandé aussi au gouvernement de travailler pour que dans les prochains jours, nous puissions redonner de la visibilité à nos concitoyens sur le calendrier. Le maître du temps, c'est le virus, malheureusement.
Emmanuel Macron hier après-midi à Montauban. Le retour de la prime Macron. Lors de la conférence sociale hier, Jean Castex a annoncé une prime pour les salariés du privé de 1000 euros cette année, défiscalisée et exonérée de cotisations sociales. Et lorsqu'on a la chance de décrocher un nouveau travail, pas facile de s'intégrer, quand tout ou presque se fait en visio. Depuis un an, le télétravail a changé nos vies. Thibault Lefèvre a rencontré Fanny, une juriste de 28 ans, qui a commencé il y a 15 jours un nouveau boulot et qui n'a encore jamais rencontrer ses nouveaux collègues.
Un nouveau poste, mais toujours le même bureau, installé au milieu du salon.
Ça ressemble à une table basse avec de nombreuses piles de documents et surtout le plus important, c'est de toute façon l'ordinateur. Sans l'ordinateur, en ce moment, on ne peut rien faire.
Un ordinateur qui a donc permis à Fanny de communiquer, évidemment par écran interposé, avec ses nouveaux collègues.
C'est difficile. Parce qu'en temps normal, le premier réseau que vous rencontrez quand vous arrivez dans un nouveau job, c'est votre travail. Si vous avez un peu de chance, vos collègues de travail seront adorables et vous intégreront et vous allez recréer toute une vie à partir de là. Ça arrive généralement quand vous rencontrez les personnes en physique. Si vous les rencontrez uniquement en virtuel et que une fois que vous refermez votre ordinateur, la réunion est terminée et vous n'aurez plus de nouvelles d'eux avant la prochaine réunion, ça porte sur le moral, évidemment, oui.
D'autant plus que Fanny doit faire ses preuves et qu'à distance, la jeune femme doute de l'image qu'elle renvoie.
Le fait de travailler presque exclusivement par visio, on peut avoir peur de donner une image de soi qui n'est pas forcément la bonne, parce qu'en fait, ils ne vous connaissent pas en réel et que derrière un écran, on peut avoir des mauvaises premières impressions aussi. Cette envie de bien faire et cette inquiétude d'être mal perçue, elle est certainement décuplée par tout ça.
Un malaise partagé, selon Fanny, par ses supérieurs qui se sont excusés de ne pas pouvoir l'accueillir dans de bonnes conditions.
Thibault Lefèvre, et comme on télétravaille rarement en costume, cravate ou ailleurs, les ventes de costumes ont chuté de 40% l'an dernier, selon le cabinet Kantar, spécialiste des études marketing. Et logiquement, les ventes de jogging ont bondi de plus de 120% au second trimestre.
France Inter, il est 7h08, le cycle infernal, Agnès. Manifestation, répression en Birmanie.
74 manifestants tués par les forces armées dimanche, journée la plus meurtrière depuis le coup d'état militaire. 11 morts supplémentaires hier à Rangoon. Alors les services de secours tentent de s'organiser. L'une de ces organisations, Myanmar Free Ambulance, est sur le point de lancer une campagne « We are not target », nous ne sommes pas une cible, avec le soutien de la Croix-Rouge, afin de réunir sous une même bannière les différents services et leur assurer une meilleure protection sur le terrain. Juliette Verlin est à Rangoon pour France Inter.
William a pris la tête de Myanmar Free Ambulance l'année dernière, mais il préfère ne pas trop parler de son parcours. D'ailleurs, leur bureau ressemble à un appartement comme les autres. Il n'y a aucun panneau visible depuis l'extérieur. Avec le sourire, il explique le but de la campagne « We are not a target ».
Dans les prochaines semaines, toutes les ambulances seront standardisées pour montrer que ce sont des ambulanciers. Il ne faut pas leur tirer dessus.
Dimanche, ils ont perdu un membre de leur équipe qui soignait un blessé par balle.
Le sentiment est là, je l'ai vu samedi dernier et maintenant il n'est plus là. Donc même si on offre des compétences, de l'équipement ou quoi que ce soit, s'il n'y a pas de protection juridique, nous ne les reverrons plus.
Leur combat juridique s'ajoute à un autre combat logistique, celui-là. Avec la grève générale et les tensions aux frontières, il leur faut désormais 3 semaines pour faire livrer du matériel contre une seule avant le coup d'État et certains équipements clés commencent à manquer.
Sans des masques de réanimation, nous devons faire du bouche à bouche. Nous n'avons aucun problème avec ça, mais nous ne pouvons pas oublier le Covid.
Ils comptent beaucoup sur l'aide d'organisations internationales pour leur matériel et sur place, ils recherchent toujours plus de volontaires avec une connaissance des gestes de premier secours. Leur équipe a obtenu l'autorisation d'aller former des pompiers, des manifestants et des enseignants au premier secours dans l'État de Rakhine. C'est une petite victoire pour William qui permettra de sauver beaucoup d'autres vies. Rangoon, Juliette Verlin, France Inter.
Et Pierre Aski reviendra sur la situation en Birmanie à 8h15 sur Inter. Retour en France avec le vote la nuit dernière à l'Assemblée et à l'unanimité d'un texte sur la protection des mineurs face aux violences sexuelles. En dessous de 15 ans, un enfant ne pourra pas être considéré comme consentant pour tout acte sexuel avec un adulte. Un seuil porté à 18 ans en cas d'inceste. Le texte va à présent être discuté au Sénat. Direction Marseille à présent, où s'est ouvert hier le procès des frères Guérini, Jean-Noël, le politique, et Alexandre, l'entrepreneur, poursuivis pour prise illégale d'intérêt, abus de confiance et favoritisme. 12 prévenus en tout pour ce procès qui va se pencher notamment sur l'attribution d'un terrain à Alexandre Guérini en 2006 à La Ciotat. Laurent Grollet a suivi hier la première journée d'audience.
À l'ouverture du procès, André est venu avec une pancarte sur laquelle il a inscrit en lettres capitales « Enfin », un jour que ce Marseillais, gilet jaune, attendait depuis si longtemps.
Depuis 11 ans, on espère que ce monsieur Guérini avec son frère Alexandre seront punis.
Jean-Noël Guérini lui arrive sans un regard pour André, ni même un mot pour les journalistes.
Comment vous sentez, monsieur Guérini ?
Dans la salle des pas perdus, Jean-Pierre Fredon lui aussi est soulagé à l'ouverture de ce procès. C'est lui qui a vendu le terrain de La Ciotat qu'Alexandre Guérini allait pouvoir exploiter en décharge, une vente sous pression.
Au début, oui, il y a eu des pressions. Pour ma maman, des coups de fil anonymes. Le soir, bon, quand même un peu âgé, nouvellement veuve, on lui téléphone en lui disant bon, « il faut vendre, il va y avoir des problèmes sinon ». Enfin bref, voilà, ce genre de pression. Et après, moi, dans la foulée, j'ai eu un camion qui a perdu les roues sur l'autoroute. Après, je jette la pierre à personne, bien sûr.
À ses côtés, sa mère, Nicole, c'est elle qui l'a convaincu de vendre.
Bon, j'ai dit « on veut assassiner mon fils, on va me mettre le feu à la propriété ». Oui, j'ai paniqué, donc... On cède, on n'est pas de taille à lutter.
Marseille, Laurent Grollet, France Bleu Provence pour France Inter.
Le ministre de l'Intérieur demande la réouverture de la mosquée de Pantin en Seine-Saint-Denis au lendemain de la démission de son recteur, Mohamed Enich. Dans un tweet, le ministre de l'Intérieur estime que les dirigeants de la mosquée ayant changé, le lieu fermé depuis le 21 octobre dernier peut rouvrir dans les meilleurs délais. La fermeture avait été décidée après l'assassinat de Samuel Paty. Enfin, que faisiez-vous il y a un an, le 16 mars 2020, lorsqu'Emmanuel Macron annonçait, sans jamais le nommer, le premier confinement en France? Entre stupeur, incrédulité et encore un peu d'insouciance, Marie-Hélène Héroir a posé la question à des Parisiens croisés sur les grands boulevards.
J'étais allée au cinéma avec un copain et quand on est sorti, on a voulu aller dîner et c'était impossible. J'ai été surprise et après, j'ai trouvé que c'était bien, mais c'était brutal.
Et un an après, vous vous sentez comment par rapport à tout ça?
Honnêtement, même si je suis d'accord, j'en ai marre.
C'était étrange. J'ai dû retourner au travail pour fermer. Après, j'ai préparé mes affaires et je suis parti chez mes parents sans trop savoir combien de temps, pourquoi. Et on en est encore là. On n'est pas habitué à nous interdire de sortir. Ça reste toujours embêtant, ennuyant, à pouvoir voir sa famille, faire ce qu'on veut. Mais on va dire que c'est rentré un peu dans notre quotidien.
Ah oui, on avait fait un couscous de confinement. C'était une soirée, on s'était tous réunis, on avait regardé l'allocution. Et après, on avait mangé un grand couscous tous ensemble à la maison.
Quel avait été votre sentiment ce soir-là?
Que c'était une annonce comme ça, ça allait durer 2-3 semaines et qu'on allait tous se retrouver pour un couscous de déconfinement, un découscous finement.
Ça fait un an. Comment vous vous sentez par rapport à tout ça?
J'attends que ça se passe et puis voilà quoi.
Le reportage de Marie-Hélène Héroir, c'était... Un jour sans fin.
Voilà, merci Agnès Soubiran. Le zoom dans 3 minutes. Des prénoms derrière les chiffres du Covid.